Bonjour, bienvenue dans cette table ronde Symbiote et Parasite, dont je vais vous lire pour commencer la présentation officielle, puisqu'elle a été très bien rédigée par les organisateurs et qu'on ne fera peut-être jamais aussi bien. L'association réciproquement profitable de deux organismes se retrouve parfois dans les récits de science-fiction. Du pêcheur de Clifford Simak au midi-chlorien de Star Wars, mais elle le sait trop souvent aux parasites dangereux, tels ceux de marionnettes humaines de Robert Heinlein. Qu'ont à nous dire les scientifiques sur ces représentations issues de l'imaginaire, de l'altérité biologique et de leurs limites? Pour discuter de ce beau sujet, nous avons dans cette table ronde un scientifique qui est professeur au Muséum d'histoire naturelle, qui est zoologiste, systématicien, spécialiste de l'évolution et, je crois, de la collaboration et de la dépendance entre espèces, qui va nous introduire le sujet. Et nous avons deux auteurs de science-fiction qui connaissent très bien le genre, qui ont écrit eux-mêmes différentes choses. Alors, on va peut-être commencer par Laurent Kessy, qui est romancier, essayiste et spécialiste du genre, puisqu'il participe à une émission régulière qui s'appelle Plus ou moins geek, où il y parle de la littérature de science-fiction, entre autres, mais aussi du cinéma. Et puis nous avons avec nous Jean-Claude Duniac, qui est romancier, novelliste, qui écrit de la science-fiction, mais pas que, qui écrit aussi plus globalement dans le domaine de l'imaginaire, de la fantasy, différentes choses plus ou moins inclassables. Nous parlerons de leurs approches sur la question. Mais si vous voulez bien, on va commencer par se tourner vers Guillaume Lecointre pour qu'il nous définisse ses concepts de départ. Qu'est-ce que c'est qu'un parasite? Qu'est-ce que c'est qu'un symbiote? Qu'est-ce que c'est qu'une relation de collaboration, de dépendance? Quel point de vue on adopte? Voilà, comment il faut poser le problème quand on est un systématicien?
Merci, bonsoir à tous. Donc on va encore parler d'évolution, on en a parlé tout à l'heure à une autre table ronde. Tous ces mots, parasitisme, symbiose, leur définition n'a pas toujours été stable en sciences naturelles. Et récemment, il y a eu un congrès où on s'est réentendu sur ce qu'on devait appeler la symbiose. Alors la symbiose, quand on décompose ce mot, ça veut tout bêtement dire la vie ensemble. Symbiosis, hein, c'est la vie ensemble. Quand on vit ensemble, eh bien voilà, on est en symbiose. Sachez d'abord qu'il n'existe aucun organisme vivant, absolument aucun, qui ne soit pas le siège d'une symbiose. Et ça, on a tendance, nous, humains, à l'oublier. Nous nous croyons autonomes, nous prenons des décisions. Mais il suffit d'aller voir son médecin pour s'apercevoir, ou d'avoir une bonne colique, par exemple, un truc bien concret, pour s'apercevoir que finalement, il y a des organismes qui nous habitent et que nous ne transmettons pas à la génération suivante, du moins par la voie classique des cellules sexuelles. Nous transmettons cette flore intestinale que nous avons, effectivement, mais pas par les voies que nous apprenons à l'école. Le bébé humain naît avec un tube digestif axénique, c'est-à-dire, oui, vierge de tout germe, on pourrait dire ça comme ça. Mais il ne faut pas quelques jours pour que la maman déjà commence à ensemencer, par simplement le contact, la vie commune, commence à ensemencer le tube digestif du petit avec sa propre flore. Et donc, dès le début de la vie, finalement, dans une famille, on se transmet des êtres qui ne sont pas classiquement considérés comme faisant partie de nous, ou du moins pas directement. Vous voyez, quand déjà, ça commence à le pas directement. Qu'est-ce que c'est le moi, finalement? Sachant que vous avez, dans votre tube digestif, plus de cellules qui ne sont pas des cellules dont le matériel génétique est du Homo sapiens sapiens, hein, si je le dis comme ça, que vous n'avez de cellules à vous. Déjà, ça fait réfléchir. Et puis, quand je regarde vos cellules à vous, ben, les centrales énergétiques de vos cellules, elles-mêmes, ont un langage génétique qui cause la langue des bactéries. Quand on regarde le matériel génétique de ces petites centrales énergétiques cellulaires que nous avons dans chacune de nos cellules et qu'on appelle les mitochondries, c'est le nom qu'on leur donne, eh bien, ces mitochondries, dans les séquences génétiques qu'elles ont, parlent la langue des bactéries. Ce qui traduit d'ailleurs une très ancienne mise en place de vie ensemble il y a 2,1 milliards d'années. Donc ces mitochondries, elles ne sont pas présentes seulement chez nous, elles sont présentes chez tous les êtres vivants. Les plantes les ont aussi, l'ensemble des animaux aussi. Alors tout ça pour dire que, première idée force, il n'y a pas d'être vivant véritablement unitaire. Nous sommes tous composites. Nous, êtres vivants, tous autant qu'on est, nous sommes déjà composites. Symbiosis, ça veut dire vivre ensemble. Après, la question est de savoir si le ensemble...
Si l'association est bénéfique pour
voilà,
les deux.
Voilà, c'est ça. Et c'est là que d'autres mots vont apparaître. Sous l'égide de la symbiose, vous avez soit, on va dire pour faire court, une association à bénéfice déséquilibré. Et dans ce cas-là, celui qui tire le plus grand bénéfice de l'autre s'appelle un parasite. Alors, le meilleur exemple, tout le monde le connaît, vous avez déjà eu des poux à l'école primaire. Tous les enfants ont eu des poux un jour. On comprend très bien que le poux a intérêt à être sur nous. Il y trouve le gîte et le couvert, et même la chaleur. Enfin bon. Et nous, nous n'avons pas spécialement d'intérêt à porter le poux. Et même parfois, il nous apporte même des bactéries qui nous donnent des maladies comme le typhus. Ça a fait d'ailleurs des hécatombes dans les tranchées, le typhus, hein, pendant la guerre de 14. Hein, voilà donc pour le parasitisme. Et lorsque l'association est à bénéfice équilibré, on parle de mutualisme cette fois-ci. Mutualisme, ça veut dire qu'effectivement, il y a un bénéfice mutuel dans l'association. Et pour finir ce petit tour d'horizon, je dirais que ces dispositions-là sont obtenues par voie de sélection naturelle au cours de l'évolution du vivant. Pourquoi ? Parce que si vous voulez penser quelles sont les origines naturelles des causes de performance des organismes, vous vous dites quels sont ceux des traits qui, s'ils sont héritables à la génération suivante, vont avoir tendance à se stabiliser dans les populations. Ce sont les traits qui donnent un bénéfice à leurs porteurs. Et ces bénéfices, il faut essayer de le voir d'une manière extrêmement large. Alors, je ne vais pas passer en revue toutes les raisons pour lesquelles un trait va se stabiliser, mais parmi ces raisons, il y en a au moins deux ou trois qui concernent le sujet de ce soir. C'est-à-dire que lorsque un trait héritable vous rend capable, fortuitement capable, parmi les milliers de variations qui altèrent les individus d'une population, si le trait transmissible vous rend capable de tirer parti d'un organisme qui n'est pas vous, eh bien ce trait va avoir tendance à se stabiliser dans les populations, et c'est l'origine naturelle de la symbiose. On pense que la symbiose démarre avec une relation de prédation quelque part. La symbiose démarre évolutivement avec le parasitisme. Mais un bon parasite, dit-on en évolution, ne tue pas tout de suite son hôte. Ceux qui le font ne sont plus là pour qu'on en parle. Il y a une dépendance vis-à-vis de l'hôte qui s'installe. Et s'il tue son hôte, il faut qu'il le rende peut-être malade, peut-être. Enfin, c'est que un parasite, évolutivement parlant, ne se stabilisera que si son hôte ne meurt pas de sa présence. Et donc, c'est comme ça qu'on a du parasitisme qui altère, certes, l'hôte, mais qui ne le tue pas complètement. En tout cas, pas avant qu'il ne se soit reproduit. Et puis, si ces situations se pérennisent, eh bien, celles des altérations parmi le parasite ou parmi l'hôte, qui fortuitement confèrent à l'un, à l'autre et aux deux un avantage mutuel, eh bien, nous allons avoir l'origine de l'association interspécifique, cette fois-ci, qu'on va appeler le mutualisme. Et donc, le mutualisme naît peut-être d'une situation primitivement parasite, mais en tout cas, le parasitisme qui s'installe et qui n'est pas trop délétère pour son hôte, eh bien, peut-être pourrait générer un jour ou l'autre une situation de mutualisme. Ça, c'est l'association interspécifique, le mutualisme. Et pour finir, gardez à l'oreille, gardez à l'esprit en tout cas, que celles des capacités fortuitement obtenues, si elles sont transmissibles à la génération suivante et elles conduisent les individus d'une même espèce à coopérer, parce que le mutualisme, c'est la coopération entre les espèces, mais il y a aussi la coopération à l'intérieur de l'espèce. Et là, l'union fait la force. Si les populations qui pratiquent l'entraide, en quelque sorte, ont ces capacités d'entraide transmissibles, l'entraide va peut-être, et c'est pas peut-être, il y a plusieurs cas où l'entraide est carrément installée dans l'espèce. Et là, on ne parle plus de parasitisme, mais c'est toujours de la symbiose. Enfin, c'est une forme de symbiose étendue, on va dire. Un exemple d'entraide, vite fait, dans nos populations, bien sûr, on la voit, l'entraide, mais prenons le cas des lycaons, entraide intraspécifique. Les lycaons sont des loups de la savane africaine qui mutualisent l'effort de chasse. Les petits sont gardés à la tanière par quelques individus. Le reste de la meute va chasser. Ce sont des prédateurs qui tuent leur proie à l'endurance. la proie est essoufflée, elle tombe, elle est déchiquetée à 15 km, 25 km de la tanière. Et donc les loups sont en groupe, ils tuent la proie, ils la mangent et ils reviennent. Mais trajet retour, hein, il faut refaire tous ces kilomètres en sens inverse. Et puis les individus de la meute régurgitent la viande pour les individus qui sont restés à la tanière garder les petits. Et régurgite cette viande pour les petits aussi, mais indistinctement des individus de qui régurgite pour qui. Et d'une chasse à l'autre, ce ne sont pas les mêmes individus qui gardent les petits. Donc on a ce qu'on appelle une mutualisation de l'effort de chasse. C'est un phénomène sélectif aussi. Petite idée glissée à l'oreille, la sélection naturelle ne produit pas que de la compétition, elle produit aussi de la coopération, et c'est pour ça que le mutualisme existe.
Le principe d'un parasite qui altère l'espèce à laquelle il s'accroche, c'est une idée qui a été très explorée par la science-fiction. Dans la présentation même de la table ronde, d'ailleurs, on a deux exemples de formes de collaboration qui sont soit bénéfiques, soit nuisibles, puisqu'on a d'une part les marionnettes humaines de Heinlein. Ça, c'est les parasites, comme dans certaines séries télévisées dont Laurent nous parlera peut-être, qui viennent se nicher sur la nuque des humains et qui prennent leur contrôle. Cette idée d'un parasite qui vient prendre le contrôle de vos actes et de vos mouvements, c'est un des grands cauchemars de la science-fiction. Et puis on a aussi les midi-chloriens. Donc là, ce sont les formes de vie microscopiques qui sont totalement bénéfiques pour les Jedi, puisque ce sont elles qui leur permettent de communiquer avec la Force et donc leur apportent des pouvoirs inattendus. Laurent, est-ce que tu peux nous faire un petit panorama de la manière dont la science-fiction, ou des meilleures idées qu'a eu la science-fiction sur ces thèmes?
Alors, j'ai envie de poser plein de questions, en fait, après ce que j'ai entendu. Et je me disais, pendant qu'il expliquait le parasitisme et la symbiose, quand il était en train d'expliquer avec les petites molécules les mitochondries, voilà, il était en train de nous expliquer la Force, en fait. Et ce concept qu'on trouvait débile quand George Lucas l'a expliqué, non, mais en fait, finalement, c'est peut-être pas si débile. Et voilà, donc pourquoi cette explication pseudo-scientifique marche finalement peut-être pas plus mal qu'une autre. Il y a plusieurs, évidemment, on peut même parler de cinéma, de gros parasites, où on peut dire que la relation n'est pas mutuellement bénéfique. Hein. Je crois que Alien, par exemple, on peut dire que la relation, elle n'est pas du tout mutuellement bénéfique. Quoi.
Et l'humain survit il y a assez peu longtemps, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, on se demande comment font les aliens une fois qu'ils ont tué tout le monde, parce que ça aussi, c'est... On n'a pas la suite de l'histoire, mais comment cette espèce arrive à se perpétuer sans humain pour vivre, quoi. C'est un des mystères. Faut pas trop réfléchir, en fait, des fois.
Si vous me permettez, le cas d'Alien, c'est directement tiré d'un exemple de la nature. Hein. Il existe des guêpes, qu'on appelle des guêpes parasitoïdes, qui pondent dans les araignées. Et l'œuf éclos, et à l'intérieur de l'araignée, la larve du parasitoïde se nourrit de l'araignée de l'intérieur. Et donc, on trouve souvent une correspondance entre ce qui est décrit dans un film de science-fiction ou un roman de science-fiction et des situations naturelles. Ouais. D'accord.
Mais ces guêpes ne passent pas après leur temps à tuer des araignées, parce que c'est un peu le problème des aliens qui, eux, une fois qu'ils ont... Donc ils tuent ce qui leur permet, en fait, de vivre. C'est une espèce de... Quand on y réfléchit, c'est un peu paradoxal, mais...
C'est une sorte d'équilibre des populations. Mais dans Alien, on n'a pas les moyens de s'en apercevoir, parce que on n'en voit qu'un.
Et voilà, huis clos.
C'est une question de scénario.
Il y a un autre aussi, dans le cinéma... Enfin, c'est un exemple popularisé par le cinéma, mais qui est plutôt... la littérature au départ, c'est l'excellent roman de Jack Finney, qui ressemble d'ailleurs aux marionnettes humaines de Heinlein. C'est l'invasion des profanateurs de sépultures. Et je crois qu'il y a eu trois ou quatre remakes successifs où là, ce sont vraiment aussi des parasites, mais qui s'emparent du corps et qui dirigent carrément le corps de leur hôte. Donc c'est, pour le coup, c'est des extraterrestres sous forme végétale. Et qui, là, c'est une forme de... Le processus n'est pas exactement expliqué, mais voilà, il s'empare il domine carrément le corps et les pensées des humains. Et ils font même une copie. Donc il y a aussi autre chose. Alors ça, je ne sais pas si ça existe dans la nature, des parasites qui font une copie, qui arrivent à copier un être.
Il y a des virus qui copient les cellules, qui s'intègrent dans l'ADN de la cellule et qui en remplacent des parties, non ? Qui copient l'ADN, oui.
Mais... Est-ce que c'est à ce niveau de complexité ? Je ne sais pas. Et là, récemment, je suis tombé sur deux exemples. Alors, c'est marrant la synchronicité parce que une BD que je traduisais et un roman que je lisais parlaient tous les deux du, je crois que c'est le cordyceps, un champignon parasite qui s'attaque au cerveau des humains. Donc ça c'est vrai, hein. Et donc c'était des utilisations faites dans deux œuvres de fantastique et science-fiction qui s'emparent du cerveau. Alors c'est pas dans les œuvres en question, c'était des humains, mais qui s'emparent du cerveau de leur hôte pour les obliger à, je sais plus exactement ce que c'était, mais monter, à se suicider pour pouvoir se propager. Peut-être que Guillaume pourra nous en dire plus. À se propager en fait en s'emparant du cerveau. Donc là, c'est du parasitisme. Je sais pas, on peut dire psychologique. Enfin, je sais pas comment on pourrait dire.
Oui, tous les cas de figure qui ont été cités sont retrouvés dans la nature. Alors, on a cité un cas de parasite qui modifie le comportement de son hôte. Et effectivement, ça existe chez certains parasites qui, lorsqu'ils atteignent notamment des fourmis, induisent ces fourmis, enfin changent le comportement de ces fourmis, en fait, assez drastiquement. Elles montent en haut d'un brin d'herbe et elles se pendent au brin d'herbe, ce qui augmente leur probabilité d'être broutés par le mouton, qui, lui, est l'hôte suivant, parce que les parasites ont souvent des cycles de reproduction complexes, mais ils sont complexes uniquement par la contingence des étapes antérieures par lesquelles leur lignage est passé. Hein. Il n'y a rien de calculé là-dedans. C'est justement, si ça avait été calculé, on n'aurait jamais fait ça aussi complexe, mais il se trouve qu'il y a des parasites qui passent par un, deux, trois hôtes au cours de leur cycle de vie. Et là, bah, y a une étape qui passe par la fourmi, puis l'étape qui passe par le mouton, lequel broute la fourmi et donc s'infeste. Et on peut passer à la phase suivante de la vie du parasite. Alors ça passe effectivement par une manipulation du comportement de l'hôte. Et puis le cas de du mimétisme, mimétisme du comportement de l'hôte, alors là c'est un peu plus subtil. Il existe par exemple des petits poissons labridés qu'on appelle des nettoyeurs, mais pas des nettoyeurs de vitres, des nettoyeurs des branchies d'autres gros poissons téléostéens osseux qui viennent se garer à la station de lavage. Hein, c'est comme un garage. Hein, il y a des endroits dans le récif corallien où un mérou vient se poster et il sait qu'à cet endroit-là, il y a une petite troupe de nettoyeurs qui va venir. Derrière les ouïes, enfin dans les fentes branchiales, à l'intérieur des branchies et puis dans la bouche, ces nettoyeurs vont venir débarrasser le mérou, enfin, ou autre gros poisson, des parasites branchiaux, parce qu'il y a pas mal de vers parasites des branchies chez les poissons téléostéens. Et il y a un animal qui mime à la fois la robe et le comportement de ces nettoyeurs. C'est un petit gobidé, c'est une autre famille. Donc anatomiquement, ce ne sont pas les mêmes poissons, mais quand vous les regardez de l'extérieur, vous avez franchement l'impression que ce sont les mêmes. Il y a le même patron de coloration et il y a le même comportement de nettoyage. Seulement, alors là, c'est un parasitisme du comportement. Le gobidé arrive parmi les labridés, il mime leur comportement. Il est protégé quelque part par le fait que ces animaux soient en banc, parce qu'être en banc, quand on est un poisson marin, c'est plutôt une protection. Et il fait semblant de se nourrir des parasites, mais ce qui l'intéresse, lui, ce n'est pas les parasites des branchies du mérou. Ce qui l'intéresse, c'est d'arracher des petits morceaux de mucus, des petits morceaux de peau et des petits morceaux d'écailles du mérou.
Ça fait mal.
Voilà. Et alors, le mérou, quand il sent qu'il se fait niaquer, bah, il n'est pas content. Et du coup, il retire, en quelque sorte, la subsistance des labridés qui, eux, étaient là pour nettoyer le mérou. Et il y a je parlais d'équilibre de population tout à l'heure. Ce petit jeu, il se joue jusqu'à un certain équilibre. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment où les gobidés parasites du comportement, si je peux le dire comme ça, deviennent trop nombreux, ils finissent par se faire repérer par les labridés. Et là, ils se font chasser. Et donc, il y a un seuil. Il y a toujours cette idée de seuil. C'est-à-dire que ça marche tant que le seuil n'est pas trop élevé. Et quand le seuil devient élevé, c'est l'ensemble du système qui s'effondre. Et le parasite a perdu. Tout le monde a perdu dans la partie. Hein. Voilà. Donc, c'est très complexe. Hein. On vient de se débarrasser de ces parasites dans une station de lavage par des labridés qui font leur job, mais qui sont parasités du point de vue comportement par des gobidés qui viennent chercher une autre ressource chez le mérou. Vous voyez, ça commence à devenir compliqué.
Alors moi, je suis frappée d'une chose en vous écoutant, c'est qu'il y a une espèce d'échelle de valeur qui n'est pas forcément exprimée. On a tendance à considérer que l'hôte, c'est la créature supérieure, la plus intelligente, la plus intéressante, la plus grande, et puis que le parasite, c'est le petit machin qui s'accroche et qui éventuellement n'aura pas que des effets négatifs sur l'hôte, mais que le parasite est secondaire. Et Jean-Claude Duniac, il fait quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est qu'il inverse complètement notre point de vue. Dans notre regard et notre échelle de valeur, habituellement, on met l'humain tout en haut. Eh bien, Jean-Claude Duniac prend un plaisir pervers à faire, dans une symbiose tout à fait inattendue, l'humain se retrouve dans la position du parasite, il est plus petit et il vit dans les animaux vils que vous avez découvert dans Étoiles mourantes ou dans d'autres récits de Jean-Claude, ces créatures immenses, majestueuses, et dont je me suis toujours demandé quel bénéfice ou comment elles ressentaient la collaboration avec les humains qui les parasitaient.
C'est une vraie question, parce que ce qui m'a intéressé dans ce livre, outre l'aspect effectivement de la ville de Cher, c'est de me dire... Si on passait à l'échelle d'après, moi j'ai étudié la systémique, mais d'un point de vue mathématique. J'ai étudié les comportements de systèmes non linéaires et je travaille dans l'aéronautique, justement, dans des travaux qui tournent autour de ça, justement, sur la manière dont un système a priori stable peut évoluer jusqu'à un moment donné d'instabilité ou de transformation. Et je me suis dit, que se passerait-il si nous, êtres humains, qui sommes, bien entendu, dans l'esprit des gens au sommet de la création, on est la créature même de Dieu, on est à son image, tout ça, etc., si on devenait la flore intestinale d'un organisme plus grand pour qui la capacité d'appréhender le réel serait d'un niveau de complexité plus élevé que le nôtre. C'est-à-dire que nous, on est capable d'imaginer un futur. On est capable de se projeter, je dirais, jusqu'aux limites du système solaire. On est même capable en ce moment d'envisager qu'il y ait des planètes habitables autour des étoiles voisines. Mais je ne connais pas grand monde qui soit capable de dire, voyons, on va écarter cette galaxie, on va écarter le mur de galaxies qui est derrière, on va encore aller au-delà. Il en faut très peu. Et ce travail-là, cette capacité de prendre ça en compte et de gérer la réalité à un niveau plus complexe, ça entraîne des types de comportements très très particuliers. À ce moment-là, l'être humain, c'est vraiment la flore intestinale ou le, je dirais, le passager d'une ville immense dont il n'est qu'un des composants. Et le travail, c'est de dire à quoi peut-il servir. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin ça c'est un phénomène qu'on constate, mais on a créé les villes qui sont des organismes supra-humains. Simplement par agrégation, déjà on a commencé par des villages, puis c'était pratique, on avait tout sur place. Enfin, ça avait des avantages d'être un village. Maintenant, vous avez des villes tentaculaires. Je pense à Paris, je pense à Los Angeles. Si vous voyez la conurbation de Los Angeles, il y a 250 km. Vous ne quittez pas Los Angeles en roulant pendant 250 km. Imaginez de Nantes à Bordeaux, vous avez une ville. Vous voyez ? Eh bien, vous êtes là et vous vous rendez compte que la ville ne fonctionne pas parce que les habitants y sont. Elle fonctionne parce qu'elle est devenue un organisme d'un niveau de complexité supérieur, dont les hommes et les habitants, qu'ils le veuillent ou non, ne sont que des serviteurs. Et tout est calculé en fonction de la ville et non pas en fonction des gens qui y habitent. Le renversement s'est fait, et c'est un renversement normal, lorsque le système a gagné un niveau de complexité. Et je me suis dit, OK, jouons à ça, jouons à imaginer des gens dans une ville, ville qui va leur satisfaire leurs besoins. C'est pratique, quand vous avez froid, de frotter les murs d'une ville de chair pour qu'elle se mette à frissonner et que sa fourrure pousse. J'ai toujours trouvé ça formidable. J'ai toujours pensé que quand on avait un orgasme sur un lit reposant sur un plancher de chair, eh bien, quelque part, la ville amplifiait ce que vous ressentiez et vous le renvoyait. Il pouvait y avoir des odeurs, il pouvait y avoir quelque chose dans cet environnement dans lequel vous vous trouvez, mais vous n'êtes quand même qu'un parasite, vous n'êtes qu'une bactérie de l'intestin à l'intérieur de cette immense ville. Et donc, je me suis posé la question de dire à quoi peut-on servir ? Avec notre vision, notre idée d'être unique, etc., à quoi peut-on. Quel service peut-on rendre? Qu'est-ce qui peut justifier qu'on soit là? Et c'est une vraie question. Et ben j'ai essayé, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Étoile morte, là, qui vient juste d'être republié, qui parle de ça. Et l'ami Ayerdal, que je salue, qui n'est plus avec nous depuis deux jours, mais qui est quelque part derrière notre épaule en train de nous écouter, a pris tout ça et en a fait son truc à lui. Il a même imaginé des gens qui se mêlaient à la chair de la ville pour faire des symbiotes, des gens enfermés dans une espèce de cocon de chair de la ville dont ils s'interfaçaient, qui les aidaient à, d'une certaine façon, à mieux comprendre ces organismes géants. Donc on a eu le cas d'êtres humains acceptant d'être des parasites et s'efforçant d'être des parasites non pas nuisibles, mais efficaces et intelligents. Mais ça nous a demandé quand même de changer un petit peu d'état d'esprit, et en particulier de cesser de nous croire au sommet de la création, ce que nous ne sommes pas.
Alors, les animaux vils, certains sont des vaisseaux spatiaux, et les humains les font voyager là où ça les arrange, eux. Alors, j'ai toujours ma question en tête. Quel est le bénéfice de cette collaboration pour la créature complexe d'un niveau supérieur ?
Eh bien, c'est-tu là au début d'Étoile mourante, quand les animaux vils ont à affronter un problème et qu'ils disent « on a longtemps attendu une race qui soit capable de fonctionner avec nous ». Elle avait deux choses. On avait besoin qu'elle ait des mains, qu'elles sont donc capables d'agir, parce que l'animal vil, c'est une espèce de grosse méduse, mais elle n'a pas d'agir. Il faut qu'elle soit à la fois capable, avec ses mains, de fabriquer des choses, et il faut qu'elle soit capable de les rêver. Et quand on a eu une espèce comme celle-là, la nôtre en l'occurrence, ils ont pu commencer à faire un plan qui leur a pris des millénaires et des millénaires. Et beaucoup, beaucoup plus que ça. Mais à un moment donné, j'ai écrit une histoire, c'est une nouvelle que tu n'as pas encore lue, parce que je suis en train de la terminer, mais qui dit qu'en fait, l'être humain a été créé par un parasite, le parasite étant le rêve. Et les rêves ont besoin, pour se développer, de ce que sont les êtres humains. Ils ont besoin de notre capacité de rêver. Et donc, ils nous ont littéralement élevés pour que notre cerveau soit capable d'abriter le plus de rêves possible et qu'on soit capable de les échanger. Et donc, ils ont fabriqué une sexualité du même, du rêve, de cet imaginaire qui a permis à ces choses-là, qui sont les créatures essentielles, de se reproduire par l'intermédiaire de ce que nous avons appris à rêver et de ce que nous avons appris à raconter par la suite. Ce qui fait de nous uniquement des réceptacles de ces moments parfaits qui se posent sur nos têtes et qui repartent. Et je me dis, c'est peut-être uniquement à ça qu'on sert.
Alors, on parle beaucoup d'écosystèmes. Guillaume Lecointre est systématicien. Et on disait un mot tout à l'heure sur le fait qu'il n'y a aucune espèce qui vive de manière isolée. Il est clair que, par exemple, on pourrait, de manière indirecte, dire qu'il y a une collaboration entre nous et les abeilles. Ce n'est pas une collaboration directe au sens où on n'est pas en symbiose entre deux espèces. Mais si les abeilles ne fécondent pas les espèces végétales dont on a besoin pour... En fait, c'est le principe même des écosystèmes. Toutes les espèces ont besoin les unes des autres dans un équilibre complexe et fragile. Alors, la science-fiction, en général, est-ce que l'association symbiotique ou parasitique n'est qu'un cas particulier de cette collaboration permanente et nécessaire ? Et est-ce que la science-fiction ne travaille pas spécifiquement sur des associations entre deux espèces, parce que c'est quand même un peu plus simple que de travailler sur tout un écosystème. Laurent, est-ce que la science-fiction a déjà essayé d'inventer des écosystèmes qui tenaient la route ?
Voilà, Cole.
Je suis désolé. Hein.
Qui ? Ouais, le cycle de l'élévation.
Entièrement végétal. Il y a une planète chez David Breen qui est entièrement végétale, avec des gens qui débarquent et qui s'aperçoivent que la totalité de l'écosystème est gérée par... Oui, je ne me rappelle plus le nom. C'est paru en Ailleurs et Demain. Et c'est assez magnifique comme histoire, parce que l'écologie est gérée, y compris dans ses débordements systémiques. C'est-à-dire que le système est doté de tout un temps de tampons noirs qui l'empêchent de dériver au-delà d'un certain point, mais qui nécessite néanmoins qu'il dérive pour être capable de s'améliorer.
De toute façon, je pense que quand un auteur de SF crée un univers quel qu'il soit, il crée un écosystème qui est des exoplanètes ou même un futur humain. Il est obligé d'extrapoler ce que disait tout à l'heure Jean-Claude sur les villes, par exemple. Dès qu'on travaille sur le futur, on est obligé de, de retravailler les associations entre ben, tout, c'est-à-dire la météo, les rapports humains. Et quand on crée des extraterrestres, quand on crée des univers galactiques, on est obligé de créer des... Il y a toujours des guerres, il y a toujours des dépendances, il y a toujours... Donc j'ai l'impression qu'on crée à chaque fois des écosystèmes. Peut-être pas aussi précisément là des écosystèmes biologiques, mais on crée toujours des mondes qui sont en relation et si on enlève un élément, ça ne fonctionne plus.
Là, tu triches, Laurent. On crée des choses dans lesquelles il faut que quelque chose se passe parce que sinon, il n'y a pas d'histoire. Donc on est obligé de créer un système en évolution. Il n'existe pas de système stable qui mérite d'être raconté.
Dans une littérature non mimétique, on est mimétique jusqu'à certains points parce qu'on est obligé de mettre des choses mais en relation.
On est obligé que quelque chose se passe et en général, je ne veux pas dire de bêtises, mais plus de 90% des bouquins imaginaires, ça commence par une crise. Donc on a un système qui est en train de changer d'état. Soit qui a changé d'état et on gère les conséquences de ce changement d'état, soit qui se prépare à changer d'état. Moi, j'ai toujours dit que la science-fiction, c'est la littérature de la métamorphose, véritablement. C'est le système du changement d'état. Et donc, de ce côté-là, si on crée un écosystème, on ne le crée que pour le plaisir de le voir évoluer d'une façon qui est désagréable. Ou de mettre des gens, nous en l'occurrence, dans un écosystème qui se comporte parfaitement bien jusqu'au moment donné où nous y arrivons. Nous sommes à ce moment-là les maladies du système. Ou le contraire, c'est clair. Mais ça, c'est clair. Mais à partir de là, est-ce que réellement on tient la route ? Moi, je ne sais pas. On n'a pas les connaissances nécessaires pour fabriquer un écosystème qui tienne à peu près la route, où il faut vraiment être un scientifique du domaine. Est-ce que toi, tu en as lu ? On parlait du bouquin de Brine. Est-ce que tu as lu des écosystèmes qui tenaient la route ?
Non, j'avais lu ce monde végétal, là, je me souviens, mais dans les années 70. Hein.
Ursula Le Guin d'ailleurs a développé des écosystèmes. Enfin, des équilibres, disons. Beaucoup d'auteurs ont essayé de développer. Mais est-ce que les scientifiques travaillent sur la symbiose dans un sens plus large ? Est-ce qu'on a des exemples de collaboration entre 3 ou 4 espèces ?
Ah, bien sûr, bien sûr. Oui, entre des champignons, des bactéries et des plantes, c'est monnaie courante. Hein. Il n'y a pas une seule plante qui fasse sa physiologie sans l'aide de champignons racinaires et de bactéries racinaires. Les associations à N...
Les orchidées demandent des araignées aussi d'un certain type. Oui. Quelquefois, il y a des trucs...
Sans parler des pollinisateurs. Donc on a vraiment des systèmes à plusieurs partenaires. Un petit peu de taxonomie, puisque je suis systématicien, la science des classifications. On parle de parasitisme et d'écosystème. Disons que pour remettre les choses... au niveau où ils ont été définis, la symbiose, c'est vivre ensemble. Alors la plupart du temps, c'est entre espèces. Hein. La symbiose, c'est vivre ensemble. Dans cette symbiose, il y a les déséquilibres des bénéfices, ça c'est du parasitisme. De l'autre côté, c'est les équilibres des bénéfices, c'est du mutualisme. Mais cette symbiose n'est que l'une des relations parmi des relations multiples qui animent un écosystème. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un écosystème si ce n'est un entrelacs de relations entre des espèces ? Et donc, ce n'est qu'une sous-partie des relations possibles dans l'écosystème. Dans l'écosystème, il y a des relations de prédation et des relations d'autres natures multiples. Donc, on est là dans de l'emboîtement des mots, en quelque sorte. Et pour finir, quand on parle de collaboration entre espèces, ou de parasitisme, ou de profit d'une espèce sur l'autre, ça pose la question de savoir finalement qu'est-ce que c'est qu'une espèce, car à certains niveaux de détail, dans les collaborations entre espèces, on va jusqu'à de l'échange génétique, c'est le cas des plantes vis-à-vis des bactéries et des champignons. L'intrication peut être à ce point étroite qu'on a de l'échange génétique. Par exemple, on retrouve... On parlait de nos mitochondries tout à l'heure. On retrouve des pseudogènes mitochondriaux dans le matériel génétique nucléaire des humains. Ça a été séquencé chez les kangourous, chez les chevaux aussi. On trouve des copies de gènes qui sont normalement des gènes de mitochondries intégrés dans le génome humain. Et c'est ce qu'on appelle un pseudogène parce qu'il n'est plus fonctionnel. En fait, il est un peu abîmé, le truc. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, dès qu'on se met à vivre étroitement ensemble, on en viendrait presque à échanger. Mais oui, voilà, c'est ça, on n'est pas loin de la fusion, c'est-à-dire qu'on finit par se demander qu'est-ce qui fait partie de l'hôte et qu'est-ce qui fait partie de l'habitant, si je peux le dire comme ça. En tout cas, qu'est-ce qui fait partie des deux partenaires ?
Oui, Laurent.
Oui, non, ça me fait penser à... c'est peut-être une extension de ce phénomène, mais les dragons de Perne, par exemple, de Anne McCaffrey, qui nous montre des personnages qui naviguent sur des dragons et qui sont tellement attachés à leurs dragons qui sont une espèce, alors le mot est employé je pense dans le texte, de symbiose, que quand un dragon est tué par malheur, son cavalier se suicide. On en arrive à, alors est-ce que
le dragonnier meurt, le dragon meurt aussi.
Voilà, ouais. On en arrive à ce genre de je sais pas si dans la nature c'est déjà, si vous étudiez ce genre de relation plus, je sais pas si psychologique que biologique, mais
j'essaie de trouver là comme ça à brûle pour point un exemple où l'un des partenaires mourrait et...
de chagrin. Une relation profondément affective entre l'hôte et son parasite.
Oui, quelque part. Est-ce que la relation de domestication n'a pas induit une forme d'interdépendance qu'on pourrait appeler mutualiste ? Le chien apporte à son maître en fait un confort, oui, un réconfort en tout cas, si ce maître se sent un peu seul. Le chien voit dans le maître le chef de sa meute, parce que le chien vient du loup, hein, donc il voit dans son maître le chef de la meute, et donc le chien vient chercher chez son maître ce qui normalement il devrait recevoir du chef de sa meute. Donc le chien trouve un réconfort aussi, il y trouve évidemment le gîte et le couvert, parce que le maître nourrit le chien. Et le maître mourant, on a décrit des cas de figure où les chiens se laissaient mourir suite au décès de leur maître. Donc peut-être que la domestication serait une forme de collaboration proche de ce que vous citez là. Ouais.
Mais souvent, on a tendance à considérer ça comme étant un partenariat entre espèces qui sont capables, au moins à un niveau frustre, d'être conscients d'eux-mêmes et de communiquer. C'est le cas des dragons sur Perne, c'est le cas du chien et son maître d'une certaine façon aussi. Les maîtres vous disent il est beaucoup plus intelligent que n'importe quel chien ordinaire, il me comprend, il est capable de me dire des choses de sa façon. Donc il y a un travail de compréhension qui n'est pas un travail purement d'échange de, je dirais, de service à un niveau beaucoup plus basique et un niveau qui n'implique pas de relationnel autre qu'un simple échange basique.
Il y a un mot pour ça, si je ne me trompe pas, c'est l'empathie. C'est-à-dire que les êtres vivants, lorsqu'ils sont sociaux, alors je parle surtout des vertébrés sociaux, ça a été décrit par Charles Darwin, hein, il y a des situations où les espèces développent une empathie qui n'est pas une sympathie, mais l'empathie, c'est être capable... comment dire, de comprendre,
de ressentir les émotions de l'autre,
de comprendre, les ressentir peut-être, oui, mais d'abord de comprendre dans quel état est l'autre,
de comprendre que l'autre ressent une émotion, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
Mais donc ça veut dire que l'autre ressent une émotion, ce qui n'est pas le cas de ton mérou et de tes petits poissons.
Peut-être pas, non.
Et alors pour prolonger les réflexions de Jean-Claude et aller au-delà de l'affect et de l'émotion, je voulais lui demander aussi, il y a un des aspects fascinants de cette relation. Entre des espèces fondamentalement différentes, beaucoup plus que ne le sont le dragonnier et son dragon ou l'homme et le chien. Lorsque l'hôte et le parasite ont des dimensions très différentes et n'ont pas de communication consciente entre elles ont aussi des temporalités différentes. À l'échelle d'une vie humaine, sur le crâne de l'humain qui a quelques cheveux, parce que tous ne sont pas des porteurs ayant les mêmes probabilités d'en accueillir, il peut y avoir des poux qui vivent sur plusieurs générations. Et les animaux vils ont une durée de vie incomparablement plus longue que celle des humains. Donc ça, c'est une belle idée de se dire qu'on peut collaborer entre espèces qui vivent à des échelles de temps différentes. On pense plus souvent à l'espace. Est-ce que cette temporalité est une bonne source d'inspiration pour des auteurs de science-fiction ?
En ce qui me concerne, tout ce qui oblige à se regarder soi-même en disant il y a un décalage entre ce que je suis et ce que sont les créatures autour de moi, c'est une bonne chose. Mais tu sais, une de mes expériences de vie les plus bouleversantes, si je puis dire, moi j'ai 58 ans, donc je viens d'une époque très lointaine où l'hygiène n'était pas du tout... ça. Vous imaginez, on mettait quelquefois de la viande de cheval dans les lasagnes, et donc les dinosaures allaient sur les routes. Et j'ai donc attrapé, quand j'étais petit à la cantine, un ver solitaire. Et un ver solitaire, que vous le vouliez ou non, il n'y a qu'une seule façon de s'en débarrasser et de l'évacuer. Je ne vais pas vous passer les détails. Hein, mais ça. Et donc, vous découvrez littéralement, parce que vous êtes obligé de le tirer à la main, quoi, quelque chose qui a vécu à l'intérieur de vous, qui est grand, ça peut faire pratiquement un demi-mètre de long, hein, et qui ne vous a jamais parlé, ne vous a jamais dit quoi que ce soit, mais a vécu à l'intérieur de vous.
Mais vous donnez faim quand même. J'en ai eu un aussi quand j'étais gamine.
Bah, tu as connu ça. Oui. Bon. Et ben, toutes ces choses-là, ce sont quelque chose dans lequel on se dit, mais attends, je ne suis pas seul. Ça peut être aussi simple que ça, mais je ne suis pas seul. Je sers à quelque chose. Et ce sont des réflexions. Moi, j'avais un père médecin, donc il m'a raconté comment ça se passait, qu'est-ce qui allait se passer, etc. Qui m'a dit presque, c'est une expérience de ta vie, surveille-le pour que tu vois comment ça se passe. Encore une fois, je vous passe les détails. Mais c'était quand même quelque chose dans lequel je me suis dit, OK, il y a eu un phénomène, il y a eu un organisme qui a été dépendant de moi pour sa survie personnelle, pour la survie de sa lignée par un certain nombre de moyens. Et je me suis dit, quel rôle est-ce que je joue ? Qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je suis, sachant que bah, une partie de moi n'est pas moi ? Vous vous débarrassez d'une partie de vous. Et ben voilà, à un moment donné, on se pose la question, on est dans un animal vil, on dit, OK, j'ai cette relation-là, je suis dans un animal infiniment plus complexe, infiniment plus vieux et infiniment plus riche de sens et de vision que moi, mais moi, j'ai quelque chose qu'il n'a pas.
Ça me permet de rebondir, puisque tu parles du moi, et c'est juste pour vous glisser à l'oreille cette idée qu'en biologie, on réfléchit beaucoup sur ce que c'est que l'individu, finalement. Parce que quand on dit moi, on parle de l'individu qui se ressent lui-même. Mais nous avons tendance naturellement à projeter sur l'ensemble du monde biologique ce qui fait notre individualité humaine. Or, quand on traverse la diversité du vivant, on s'aperçoit que l'individu se délite. Chez nous, il y a superposition chez l'individu de l'intégrité physique, de l'unicité génétique et de la trajectoire historique. De l'œuf jusqu'à votre mort, vous êtes le même individu. Et tout ça, c'est une intégrité physique entre nous, toute relative. Tout le monde sait que les êtres vivants sont traversés par de la matière et de l'énergie. Si on mange, c'est qu'on a besoin de remplacer notre matière. Donc, il y a quand même un processus de changement matériel en nous. Tous les 15 jours, on renouvelle complètement la paroi de notre intestin. Et puis, c'est un peu plus lent sur les os, bien sûr, mais on est un changement permanent. Néanmoins, dans cette trajectoire de changement, nous sommes, tout au long de cette trajectoire, une intégrité physique à laquelle se superpose une unicité génétique. Et bien, quand on traverse le vivant, on perd la notion de ce que c'est que le moi, de ce que c'est que l'individu. Il y a des êtres vivants qui sont unitaires sur le plan génétique, à peu près, mais qui ne sont pas du tout unitaires sur le plan physique. Un même clone de peuplier peut peupler toute l'Amérique du Nord, par exemple. Différents représentants génétiques n'ont pas les mêmes intégrités physiques. Dans la trajectoire des méduses, on peut voir des individus qui sont génétiquement différents et qui s'associent pour réaliser, enfin, chez certains animaux, des individus différents réalisent une colonie temporaire qui a une intégrité physique. Et puis, une trajectoire de vie, de l'œuf jusqu'à l'adulte, en bourgeonnant, peut donner des individus physiquement séparés, finalement, physiquement distincts du lignage unitaire qui les avait fait démarrer. En tout cas, il y a une vraie réflexion en biologie, et ça touche même à la philosophie, quand on regarde ça avec un œil de biologiste, qu'est-ce que c'est qu'un individu quand on est en biologie. Ouais.
Et en particulier, le fait que la notion de parasitisme ou de collaboration ne touche pas peut-être toujours l'individu, mais la colonie. Est-ce qu'on a des exemples de parasitisme ou de relations symbiotiques avec une fourmilière et pas avec les fourmis qui la constituent ? Dans le cas d'espèces qui ont peut-être une intelligence collective ou des formes de collaboration au sein de l'espèce.
Oui, alors là, comme je ne suis pas parasitologue de profession, je ne vais pas vous citer les noms, mais j'ai eu vent effectivement. Alors, je crois que ce sont des fourmis prédatrices qui arrivent dans une fourmilière, qui mime les molécules de reconnaissance, une mimétique,
les phéromones,
la carte d'identité. Voilà, elles ont une fausse carte d'identité, elles rentrent et elles font des dégâts. Ouais. De mémoire, comme ça, à froid, du bout de la mémoire, c'est tout ce dont je me souviens, a priori. Mais il faudrait que je regarde dans les données. Ouais.
Il y a aussi des cas de ruches où l'élément dominant qui est la reine, qui a justement un jeu de phéromones qui sert à stabiliser tout le monde en leur disant quoi faire, grosso modo, disparaît. Et par conséquent, on recrée une pseudo-reine à partir de n'importe quel individu disponible pour lui dire il faut qu'une décision soit prise. Donc tu es nommé et tu es biologiquement transformé pour devenir quelqu'un que tu n'étais pas destiné à être. Et ça, ça arrive effectivement dans les phénomènes. Ça, ça peut donner des idées d'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, on peut parfaitement imaginer qu'un être humain, dans une ruche gigantesque, devienne une reine par accident, simplement parce qu'il n'y a pas de reine sur place.
Tu l'as raconté, d'ailleurs.
Je l'ai raconté, je suis en train de continuer de le raconter. Mais on peut l'imaginer et on peut se dire, OK, qu'est-ce qui se passe ? Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de dire, OK, j'ai un personnage qui est donc parasité, en quelque sorte, par une ruche, qui se retrouve intégré dans un environnement biologique qui n'est pas le sien, mais dans lequel elle parvient à survivre, parce que tout le monde y a intérêt. La ruche a intérêt à ce qu'une reine soit là, elle a intérêt à ce qu'on s'occupe d'elle, parce que tous les autres ont été tués. Donc, on pourrait imaginer que ce système est stable. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de dire, OK, avec cette personne-là, que fait-on ? Elle a acquis un certain pouvoir, elle a acquis une façon de communiquer et de s'interfacer avec un biotope complètement différent. Comment peut-elle extrapoler ça pour devenir autre chose et le porte-parole vers d'autres espèces ou vers d'autres problèmes ? Et à partir de là, on peut toujours construire vers un état de complexité plus important en disant, OK, on parle d'un individu, mais l'individu tout seul, comme tu dis, n'existe pas. Et de toute façon, l'individu tout seul meurt. Quelle que soit l'espèce, quel que soit un individu privé des autres, meurt, tout simplement. En plus ou moins, mais très très rapidement. Donc se dire, OK, on a créé un système plus complexe, on est là-dedans. Maintenant, on sort de ça et on amène un écosystème entier vers un autre écosystème. On fait la collision de deux galaxies. Et à partir de là, ça devient intéressant. Parce que du coup, le moi, l'individu tout seul, celui qui pense être la personne qui dirige sa vie, est complètement noyé dans un système beaucoup plus large, lui-même confronté à un système encore plus large. Et à ce moment-là, d'abord, on prend une sacrée claque sur l'orgueil et sur l'ego. Et puis surtout, on se dit, quel est mon rôle, quelle est ma place, à quoi je sers, quelle est ma fonction, et comment vais-je mourir en acceptant d'avoir vécu ? Ça, c'était la question que j'ai eu envie de raconter.
Il nous reste quelques minutes. Vous avez sûrement envie d'entrer en relation symbiotique avec eux et de leur poser une question pendant cet instant de collaboration bénéfique. Donc, je ne sais pas ce qu'on a comme micro, mais voilà, il y en a qui circulent. Donc, on a une question ici, au premier rang.
Bonjour, bonsoir. Vous avez parlé de la symbiose en général, plus de son point de vue scientifique, qui n'est pas moins intéressant. Comme exemple, dans la science-fiction, vous avez cité les midi-chloriens, et j'ai oublié le nom de l'autre œuvre.
Les marionnettes humaines de Heinlein.
Exactement, oui. On a aussi, dans une série télévisée que vous avez évoquée au début, une relation symbiotique qui, elle, sépare complètement l'hôte du symbiote. C'est la série Stargate, où on a une relation où l'hôte est complètement séparé, sachant que non seulement le symbiote détruit complètement le système immunitaire de son hôte,
Mais l'assume à la place de l'ancien système immunitaire, c'est-à-dire qu'il protège quand même son hôte.
Il protège quand même parce qu'il guérit bien plus efficacement, mais il le met quand même à sa merci du fait qu'il n'a plus son libre arbitre et qu'il ne devient plus qu'un corps manipulé. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça réellement, parce que j'ai vu qu'il y avait des arbres, des espèces végétales qui fonctionnaient pas complètement comme ça, parce qu'un arbre n'a pas de conscience, mais physiquement un peu de la même façon, quoi.
Un contrôle psychique et pas seulement dévorer de l'intérieur la créature qui va permettre de vivre à la descendance.
Oui, bah les modifications de comportement induites par des parasitoses, on le voit. C'est le cas de la fourmi tout à l'heure, je reprends le même. Hein. L'insecte qui normalement n'aurait jamais idée d'aller se pendre au bout d'un brin d'herbe, bah, tout à coup se met à le faire parce que la présence du parasite.
Que le mouton puisse le manger plus facilement.
Le pour-que est à mettre entre guillemets, c'est-à-dire qu'il se trouve que statistiquement, le parasite, lui, augmente ses chances de passer dans l'hôte suivant. Donc le contrôle psychique se fait. Moi, j'ai envie de vous inviter à vous réfléchir en tant qu'individu étendu, c'est-à-dire que souvent on se pense en tant que moi-même, dans la superposition d'une unicité physique, d'une unicité génétique et dans une histoire. Et si vous privilégiez la dimension historique de l'individu depuis l'œuf jusqu'à sa mort, peu importe que vous soyez habité par plus de cellules que ne sont pas celles que vous transmettrez à vos enfants génétiquement parlant, que vous n'en avez... peu importe, en fait, tout c'est ce que m'inspire cette histoire de vers solitaire, hein, c'est qu'après tout, c'est la trajectoire et la mémoire que vous en gardez qui fait de vous un individu, même si cette mémoire s'altère, peu importe. Vous êtes vous-même avec vos mitochondries qui parlent le langage des bactéries et vous êtes vous-même avec les milliards de bactéries qui habitent votre tube digestif.
Mais bon, si vous en changez et si, si la collaboration marche toujours, vous vous reconnaîtrez.
Oui, j'ai une anecdote à vous raconter à ce sujet-là. Nous sommes colonisés de l'intérieur par les bactéries américaines. Vous voulez que je vous raconte ça ? Dans ma carrière, j'ai eu la chance de m'occuper des relations de parenté à parmi les souches de ces bactéries très courantes qu'on appelle Escherichia coli. Hein, c'est vraiment le modèle de la bactérie le plus courant. Comme ces bactéries échangent assez peu finalement de matériel génétique, contrairement à d'autres espèces de bactéries où là, vraiment les échanges sont forts, là les échanges sont moyens, donc on arrive quand même à mesurer les taux d'échange entre les souches. Et j'avais collaboré avec des gens de l'hôpital Robert Debré pour connaître la diversité historique phylogénétique. On a parlé de la phylogénétique dans une des tables rondes tout à l'heure. Les relations d'apparentement entre souches de Escherichia coli. Et on a pu découvrir comme ça qu'en Europe, les groupes de souches historiques qu'on appelle A et B1 sont majoritaires. Alors que classiquement, aux États-Unis, curieusement, ce ne sont pas les mêmes souches qui statistiquement habitent majoritairement le tube digestif des individus américains. Ce sont les souches B2 et les souches D. Et dans le biomédical, enfin moi je ne suis pas médecin, mais mes collègues qui faisaient de la recherche médicale avaient en stock des échantillons de bactéries de différentes époques. Ils ont pu reconstituer sur quelques décennies le changement de faune. De flore, pardon, du tube digestif des Européens. Et les Européens, depuis une vingtaine d'années, sont de plus en plus fréquemment habités par des bactéries Escherichia coli du groupe B2. Et on le sait parce que c'est le groupe qui porte le plus de facteurs de virulence. Les maladies intestinales sont portées par des facteurs de virulence qui majoritairement sont dans le groupe B2. Et donc la question était de savoir si l'américanisation du mode d'alimentation en Europe de l'Ouest n'aurait pas produit en quelque sorte une adaptation favoriser les quelques résidus d'individus B2 qui étaient présents, très minoritaires chez nous, ne les aurait pas amenés à devenir dominants dans la faune, dans la flore intestinale des Européens, au détriment des groupes A et B1. Un phénomène de sélection, en fait. Nous nous américanisons par nos symbiotes, quelque part.
On a aussi une nourriture qui, depuis quelques années, quelques dizaines d'années à peine, a dépassé un rayon de 50 km autour de chez soi pour atteindre le monde entier. Pas quotidiennement, mais toutes les semaines, je mange des choses qui ont voyagé plusieurs milliers de kilomètres avant d'arriver sur ma table. Alors que ce n'était pas du tout le cas de mes parents et encore moins de mes grands-parents. Mes grands-parents ne mangeaient que des choses produites dans un rayon de 50 à 100 km de chez eux. Clairement, c'était, ils ne savaient pas faire autrement. Vous savez, quand vous lisez Flaubert, vous tombez sur cette scène où Emma Bovary elle est invitée dans un repas un peu chic et elle a cette phrase extraordinaire. Elle n'avait jamais vu de grenade ni mangé d'ananas. Madame Bovary, donc dans ce truc, on n'avait jamais vu ça, elle n'avait jamais mangé ça. C'était quelque chose de totalement extraordinaire. Alors que nous, dans n'importe quel marché, vous allez dans même dans le petit village, vous avez des ananas qui sont à la supérette du coin. D'accord ? Des mangues moins, mais il y en a certainement aussi. Vous voyez, les grenades, quand c'est la saison, on en voit. Donc tout ça, ça veut dire que vous avez une partie de la nourriture qui a été produite dans d'autres pays, conditionnée dans d'autres pays, éventuellement stérilisée dans d'autres pays, ce qui veut dire qu'elle a rechopé dans ce pays-là juste après la stérilisation, tout ce qui pouvait traîner, et on vous l'emporte chez vous. Donc, on récupère tout ça, c'est très bien. Mais c'est une colonisation mondiale.
On en fait même un argument commercial en vous proposant de manger des Actimel et des Activia qui vont renouveler votre flore intestinale et la remplacer par une qui vous rendra mince et beau. On a tout juste le temps pour une dernière question, rapide. Il nous reste 2-3 minutes. Oui, ah oui, il doit y avoir plusieurs bras qui se lèvent, j'en ai vu un là-bas.
Alors, moi, c'était pour revenir sur les questions de ruches et de fourmilières. Et juste noter, j'ai lu il n'y a pas très longtemps le recueil de nouvelles d'Anna Starobinets, Je suis la reine.
Je suis la reine.
Et donc, dans la nouvelle Je suis la reine, la question de la fourmilière, là, c'est vraiment plus un parasite simple, c'est vraiment toute la fourmilière.
Oui, absolument, oui. Oui, c'est vraiment intéressant de dire, OK, on a un système a priori qui fonctionne, on a introduit un corps étranger. Ce corps étranger réoblige l'ensemble de l'écosystème à s'adapter à lui. Et à ce moment-là, ce n'est même pas un état de parasitisme, c'est l'obligation du système de s'adapter à de nouvelles conditions initiales. Ce n'est pas vraiment du parasitisme, c'est juste que c'est une évolution brutale. Et ça se produit malheureusement de plus en plus souvent. Et avec le réchauffement climatique, par exemple, on voit arriver dans nos jardins des choses qui n'existaient pas il y a 20 ans. Moi, je vois dans mon jardin, j'habite à Toulouse, des choses qui viennent d'Espagne. Et à ce moment-là, est-ce que mes plantes s'y adaptent ? Je ne sais pas, il y a des écureuils gris qui sont venus bouffer nos écureuils. Enfin, il y a des tas de choses comme ça. Il y a certaines variétés d'algues qui sont en train d'envahir certains fonds et de remplacer d'autres. Moi qui fais de la plongée, je vous garantis qu'en 20 ans, on voit des changements absolument majeurs et spectaculaires sur des écosystèmes locaux. Ce n'est pas nécessairement de la parasitisation, c'est juste que des éléments exogènes, vraiment des éléments qui ne font pas partie de ça, une étrangeté, vient bouleverser un système a priori stable ou tout au moins fonctionnant assez bien dans son autarcie. Et moi, en tant qu'écrivain de science-fiction, l'élément étranger le plus nuisible, c'est l'être humain. C'est lui dont je me dis quel bordel va-t-il mettre quand il va débarquer quelque part. Et ça m'intéresse. Et après, de se dire, OK, à quoi servons-nous ?
On avait une toute dernière question. J'avais vu une main se tendre. Et puis après, je crois qu'il faudra qu'on se sépare. Donc, c'est une collaboration fugace, mais ô combien significative.
Une question que je me posais, c'est qu'on a beaucoup parlé depuis le début des symbioses qui, on va dire, qui sont plutôt naturelles, qui émergent naturellement de l'évolution et de traits qui sont sélectionnés. Maintenant qu'on est capable, au niveau humain, d'analyser ces symbioses, voire de comprendre comment elles fonctionnent, est-ce qu'on peut imaginer maintenant des symbioses qui seraient choisies ? Alors on a abordé un peu ça avec la domestication, mais en allant plus loin, sélectionner nous-mêmes des traits d'individus avec qui il nous paraîtrait intéressant d'entrer en symbiose.
Ou on les pourrait les fabriquer à la limite, non ?
Ça a été fait déjà il y a plusieurs siècles. Je te rappelle que les Aztèques, pour ne citer qu'eux, avaient trouvé un moyen d'associer le maïs, le potiron et je ne sais plus quelle autre plante qui se renforçaient mutuellement pour se débarrasser d'un certain nombre de parasites. Et donc les planter vraiment faisaient des espèces de petits puits où on mettait les trois graines en même temps pour qu'elles fonctionnent de manière commune.
Je pense à la transgénèse, c'est-à-dire le fait de tout simplement chez des bactéries de leur donner des équipements génétiques qu'elles n'avaient pas au départ. Mais là on n'est pas c'est pas l'ensemble d'un organisme qui est associé à l'ensemble d'un autre, donc c'est un cas un peu limite. Mais comme dans le monde des micro-organismes, on ne sait plus où est l'individu, c'est-à-dire que seulement 30% du matériel génétique d'une bactérie lui provient de son lignage qu'on pourrait qualifier de vertical, et les 70% restants, c'est ce qu'ils ont chopé dans l'environnement les 15 jours d'avant. On se pose vraiment la question de l'individualité dans le monde des micro-organismes. Sachant cela, effectivement, les concepts que nous projetons sur la nature se délitent avec les micro-organismes. Est-ce que la transgénèse ne devient pas une symbiose contrôlée, sachant qu'on ne sait plus d'où proviennent les... de quelle entité, comment faut-il nommer l'entité à ce point composite qu'on a du mal à y reconnaître autre chose qu'une mosaïque. Et donc, ça clôt par une question vraiment ouverte. Avec le monde des micro-organismes, nos concepts habituels sont en frontière. Voilà.
C'est une belle fin pour une table ronde de découvrir que nous avons tous fusionné, que nous ne sommes plus des individus distincts les uns des autres. Nous vous souhaitons une bonne poursuite, mais nous allons cesser ici cette table ronde en remerciant nos intervenants. Et vous tous.